Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Et désormais, une date importante dans l'histoire des États-Unis. De quoi l'assaut sur le Capitole il y a un an est-il le symptôme? Quelles leçons en tirer au-delà des États-Unis? Car cet événement survient comme un symptôme. De quoi? De l'affaissement des institutions démocratiques américaines, d'une désagrégation des pratiques civiques. Pour passer en revue les différentes hypothèses au sujet de cet événement, je suis en compagnie de l'historien Rana Levy. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et professeur au Centre de Recherche Politique Raymond Aron. J'avais au moins trois bonnes raisons de vous inviter. Tout d'abord parce que vous êtes un élève de François Furet, donc vous avez beaucoup réfléchi aux questions relatives aux révolutions. Vous êtes un grand lecteur de Tocqueville, et Tocqueville est à la fois essentiel pour comprendre la démocratie américaine, mais aussi pour comprendre les pathologies de la démocratie. Et vous publiez un ouvrage clair et incisif, Le chaos de la démocratie américaine, ce que révèle l'émeute du Capitole, c'est aux éditions Gallimard. Tout d'abord, Rana Levy, une première difficulté, c'est essayer de caractériser cet événement. Que s'est-il passé au Capitole il y a un an?
Il y a une manière de dire que finalement c'était un non-événement. C'est ce que disent d'ailleurs les Trumpistes et Trump lui-même. Il dit c'est une manifestation qui a mal tourné. Et il y a des arguments en faveur de cette thèse parce que la certification de l'élection présidentielle qui a été interrompue à un moment est arrivée au bout. Biden a été inauguré quelques jours après. L'incident a été clos. Il y avait des désordres, il y avait des morts, 5 morts et 140 blessés. C'est beaucoup, mais c'est peu au regard d'autres tumultes qui produisent des victimes d'une autre ampleur. Mais pour les Américains, au moment même où ils regardaient à la télévision se dérouler ce moment particulier, la plupart ont compris que là, il y a une sorte de ligne de partage des eaux et qu'il y aura un avant et un après le 6 janvier. Il y a d'abord le contraste extraordinaire entre le lieu et les émeutiers. Le Capitole, c'est le cœur battant de la démocratie américaine. C'est le lieu où se déploie la légitimité nationale. Et il y a aussi l'architecture du lieu qui est très solennelle, immuable, intemporel, et tout d'un coup on voit une meute qui envahit les lieux, qui saccage, qui frappe très violemment les gardiens, qui cherchent des représentants démocrates de préférence pour s'en emparer, et qui un événement qui aurait pu d'ailleurs produire des conséquences autrement terribles s'ils rencontraient sur leur chemin ceux qu'ils ont cherché et n'ont pas trouvé. Et pourtant, c'est un grand événement. Mais on peut, sur le moment, certains représentants démocrates et certains commentateurs, et même le chef d'état-major de l'armée américaine, ont parlé de putsch, de moment Reichstag ou de coup d'État. Il faut tout de suite écarter cette hypothèse qui est très fleurie, mais qui est très exagérée.
Justement, qu'est-ce qui distingue, Rana Levy, cet événement d'un coup d'État ou d'une tentative de révolution?
Un coup d'État, c'est dans sa définition moderne, c'est-à-dire depuis la Révolution française, c'est une partie des corps constitués, de l'armée en général, qui s'empare du pouvoir et dépose les autorités légales, au nom d'ailleurs de la raison d'État ou du bien commun. Il faut dire que Trump n'avait aucun moyen de commettre un coup d'État. Il n'en avait pas le talent. Il a beaucoup de talent, mais pas pour commettre un coup d'État. Il n'avait pas l'infrastructure. Il n'avait pas une armée qui l'aurait suivi. Il avait un entourage incapable et, je dirais, une incapacité d'organisation qui ne lui aurait pas permis de commettre un coup d'État. Donc, restent deux éléments ou deux définitions qui ont été admirablement décrites par un Français qui s'appelle Victor Hugo, dans un très grand roman qui s'appelle Le Misérable, c'est l'émeute et l'insurrection. Donc, pour la plupart des émeutiers, ils participaient à une insurrection. L'insurrection, c'est un acte légal au nom du droit. et eux pensaient agir au nom du droit. Or, c'est une insurrection qui a tourné à l'émeute pour produire un non-événement qui est un grand événement.
Je vous propose, Rana Levy, d'entendre Donald Trump, parce que l'autre question qui se pose, maintenant que vous avez caractérisé cet événement, c'est d'essayer de jauger quelle est la responsabilité de l'ancien président des États-Unis dans ce qui s'est déroulé au Capitole.
Maintenant, il est temps pour le Congrès de répondre à cette odieuse attaque contre notre démocratie. Et après cela, nous marcherons, et je serai avec vous. Nous marcherons où vous voulez. Mais je pense que là, maintenant, nous allons marcher jusqu'au Capitole. Et nous allons féliciter nos courageux sénateurs et membres du Congrès. Et certains d'entre eux, nous ne les féliciterons probablement pas, parce que vous ne pouvez pas reprendre votre pays en étant faible. Il vous faut montrer votre détermination et votre force.
Le discours de Donald Trump à son meeting Save America March qui a électrisé donc ses partisans. Rana Levy, la question est simple. Quelle est la responsabilité de Donald Trump dans les événements qui se sont déroulés au Capitole il y a un an ?
Appréciez d'abord le talent phénoménal du personnage. On est au mois de janvier, dans une journée glaciale. Il parle sans notes pendant une heure et demie et galvanise des centaines de milliers de manifestants qui l'écoutent, qui l'applaudissent, qui l'ovationnent et dont une partie va ensuite se diriger vers le Capitole. Quand on parle de responsabilité, il faut distinguer deux domaines. Il y a la responsabilité des faits. L'incitation à l'insurrection de Donald Trump ne peut faire de doute. Vous avez cité un extrait, il y en a d'autres, même pire. C'est-à-dire, il a contesté l'élection et il a invité ses soutiens et les sympathisants républicains qui sont venus de tous les coins du pays de marcher sur le Capitole et d'une certaine manière d'interrompre un processus légal au nom d'une légitimité que lui-même et eux considéraient comme bafouée. Mais il y a la question constitutionnelle, c'est-à-dire on l'a jugé après qu'il ait quitté la Maison-Blanche, est-il responsable ou coupable au regard de la loi ? Le problème de la Constitution américaine, c'est que elle n'est pas suffisamment précise pour qu'on puisse le juger comme on juge un criminel de droit commun. Il faut interpréter ce mot des fondateurs responsables des crimes et délits majeurs. Et les fondateurs de la République américaine ne voulaient pas définir crimes et délits majeurs parce qu'ils savaient que la définition allait évoluer au fil de l'histoire américaine. D'où un conflit d'interprétation entre juristes, entre politiques, et qui continue d'ailleurs à déchirer les Américains jusqu'à aujourd'hui.
Rana Levy, une question que je me dois de vous poser en essayant d'être l'avocat de Donald Trump, ce qui n'est pas un travail extrêmement confortable, mais vous l'abordez dans votre livre « Le chaos de la démocratie américaine » aux éditions Gallimard. Donald Trump a expliqué que cette élection lui avait été dérobée. Quelles sont les pièces du dossier ? Dans quelle mesure il y avait matière à contester cette élection ou les procédures qui ont entouré le vote ?
Il y a un problème de comptage qui est un vieux problème des élections américaines qui n'a pas été réglé. Mais sur les accusations soulevées par Donald Trump, il y a une réponse claire et nette des tribunaux, de la Cour suprême, des tribunaux fédéraux, parce que les Trumpistes ont déposé des recours dans plusieurs États et tous les recours ont été rejetés par des juges qui ont engagé Trump, parce que ces juges, parmi les juges, il y avait beaucoup de juges conservateurs qui avaient été nommés par Trump lui-même. Donc, du point de vue légal, il n'y avait pas une seule preuve établie d'une fraude électorale. Mais il est vrai que c'est une question que j'essaye un peu d'éclaircir dans un chapitre, et que les circonstances particulières du Covid ont modifié, ont fait évoluer la procédure électorale pendant cette élection présidentielle. Elles n'ont pas produit des fraudes, mais elles ont enflammé les soupçons possibles de fraude dont Trump, à la limite, n'avait pas besoin parce qu'il croit à une fraude électorale d'une manière structurelle.
Le terme de fraude est probablement déplacé, mais vous expliquez, René Lévy, qu'il y a eu un certain nombre de procédures de vote, de changements de procédures qui ont été faits assez finement par les Républicains notamment pour empêcher une partie des électeurs démocrates de voter. Par exemple, empêcher les électeurs noirs de déposer une procuration au vu donc de la sociologie donc de ces électeurs noirs, le fait par exemple de les empêcher de voter avant d'aller à la messe pour ceux qui vont à la messe.
Oui, il y avait un certain nombre d'interdictions qui étaient mesquines parce que les électeurs parfois, dans certains endroits, surtout en Géorgie, attendaient pendant des heures avant d'aller voter et on interdisait de leur apporter des vivres. Mais que les Républicains, après les élections, veuillent modifier un certain nombre de règles électorales, c'est, je dirais, de bonne guerre, mais c'est compréhensible. Mais il faut regarder ce qui se passe, ce qui s'est passé depuis l'élection. Depuis l'élection, ils essayent de modifier toute la logique du système électoral et d'introduire ou d'institutionnaliser le soupçon au sein de ce processus. Imaginez, nous allons voter et nous allons déposer un bulletin de vote, on ne regarde pas qui est la personne devant nous, devant laquelle on signe ou on dépose les bulletins. Là, ils transfèrent le contrôle des élections des fonctionnaires aux élus, c'est-à-dire aux élus à la majorité républicaine ou démocrate qui serait élue pour les contrôler. Et donc, ils systématisent le soupçon au sein de l'acte le plus élémentaire et le plus fondamental de la vie nationale.
Rana Lévy, lorsque vous dites que cet événement est ce que l'on peut appeler une insurrection, est-ce que c'est une révolution qui se fait sans les moyens intellectuels, humains, organisationnels, et donc quelque chose qui est conduit à échouer? Est-ce que c'est juste du désordre et du ressentiment en acte?
C'est une insurrection qui a tourné à l'émeute, à une émeute même piteuse et effrayante. Quand j'ai décrit le contraste dans le décor...
Qu'est-ce qui s'est passé dans cette journée, justement? Rappelez-nous le déroulement.
Pour revenir à la question que vous venez tout juste de poser, quand on regarde les insurgés, on voit que les délinquants n'y figurent même pas, que les extrémistes, les suprémacistes dont on a beaucoup parlé, représentent une minorité, et que la plupart de ces insurgés ou de ces émeutiers, ou insurgés tournés en émeutiers, sont déjà ordinaires. Agents immobiliers, directeurs de succursales, un prof de yoga qui est devenu fulminant, des anciens militaires, des anciens sportifs, bref, un portrait...
Des policiers
qui croient commettre un acte civique en attaquant le Capitole. Et c'est ça le paradoxe de cette émeute, jugée par eux comme une insurrection. Nous sommes devant des gens qui sont allés au Capitole, qui ont bafoué la loi pour défendre la Constitution. Pour eux, ils étaient en train de défendre les droits. Si vous permettez, il y a deux jours, un journal américain a publié des statistiques, un an après. Quasiment la moitié des électeurs républicains juge que l'attaque du Congrès a été un acte de patriotisme. Un an après.
C'est ça une insurrection, c'est quand on croit que l'on fait quelque chose de juste.
Voilà, selon la définition de Victor Hugo, 56% disent que l'attaque était faite pour défendre la liberté. Autrement dit, on est dans une logique où une grosse partie de la population américaine, des citoyens américains, pense que la violence est parfois un instrument salutaire pour établir un droit bafoué. Et là, on touche à la polarisation et à la fracture terrible qui divise aujourd'hui les Américains, où ils ont, je dirais, de la chose publique et de la chose politique, des visions totalement inconciliables.
Mais ce qui est frappant, lorsque vous évoquez dans le chaos de la démocratie américaine la manière dont cette journée s'est déroulée, c'est que ces individus étaient tous extrêmement, convaincus d'être dans leur bon droit et de faire un acte, non pas fascistoïde, mais au contraire un acte démocratique.
Un acte de salut public, un acte pour sauver la Constitution, ils le disent. Ils le disent avant. Donc il y avait c'était planifié beaucoup de gens, je l'ai cité d'ailleurs, il y a des pamphlets, les réseaux sociaux sont pleins de mots d'ordre, de projets, vous savez, ils sont venus de tous les coins de l'Amérique, parfois sur des vols privés, afin d'abord d'exprimer leur soutien à un président et surtout de contester une élection qui pour eux était une élection volée.
On se retrouve dans une vingtaine de minutes, Rana Levy. Le chaos de la démocratie américaine, ce que révèle l'émeute du Capitole aux éditions Gallimard. Vous nous donnerez également en tant qu'historien votre point de vue à la fois sur le malaise que traversent de nombreuses démocraties et puis aussi peut-être un peu votre regard sur la politique en France, sur la manière dont celle-ci se fait aujourd'hui.
7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
8h21, notre invité c'est Rana Levy, historien, directeur de recherche au CNRS, professeur au Centre de Recherche Politique Raymond Aron. Vous êtes notamment un spécialiste de la Révolution française, vous êtes un grand lecteur de Tocqueville. On évoquait les pathologies de la démocratie, alors ce sont des pathologies dans les deux sens du terme, parce que elles relèvent aussi d'une situation sanitaire tout à fait inédite. Votre point de vue, justement, Rana Levy, à la fois sur la manière dont la crise sanitaire influe sur les démocraties et puis peut-être aussi sur cette petite phrase que tous les journaux commentent aujourd'hui, la petite phrase du président de la République sur l'attitude à tenir vis-à-vis des non-vaccinés.
Il y a un élément supplémentaire qui s'introduit dans ce débat, c'est les élections présidentielles qui vont avoir dans quelques mois. Et du coup, comme dit Frédéric XVI, les dissentiments deviennent des fractures et les fractures deviennent des fossés. Et du coup, le débat ou les opinions se divisent en fonction, je dirais, des adhésions politiques. Je crois qu'un président de la République, même en période électorale, peut éviter de se lancer dans des commentaires intempestifs. Mais je note aussi avec curiosité qu'il est autant il crée la polémique parce que les propos sont polémiques. Autant à l'étranger, il est célébré. Les gens disent, mais quel culot, Macron, ils disent ce qu'il faut, surtout les Anglais. Dans la presse britannique de ce matin, Macron, il dit la vérité aux Français, il cherche à emmerder les non-vaccinés, et après tout, on est dans une situation de crise, et dans une situation de crise, autant on peut pas légiférer à outrance, autant on peut provoquer un petit peu un débat sur la question vaccinale.
Mais alors, dans le grand nombre de commentaires qui ont été faits autour de cette phrase, il y a une dimension qui a été parfois soulignée, c'est le fait de dire, il faut créer du clivage comme Donald Trump l'a fait, et c'est ce que Emmanuel Macron essaye de faire, ou pour le dire autrement, peut-être, l'exemple de Donald Trump qui est inédit, comme vous le rappelez dans votre livre « Le chaos de la démocratie américaine » aux éditions Gallimard, c'est la preuve finalement qu'être transgressif est parfois une opération payante en politique.
Oui, mais il faut distinguer transgression et transgression. Le président Macron transgresse, on vu d'une solution politique ou d'un but avec lequel on peut être d'accord ou pas d'accord. Et Trump a, je dirais, encouragé ses sympathisants à prendre des risques énormes. Pendant la campagne et pendant la crise du Covid et la campagne présidentielle, il a expliqué, il a invité ses adhérents de venir à des réunions publiques non masquées, à bafouer toute règle sanitaire, parce que lui-même était sceptique avant d'attraper le Covid, et même après. Et alors, en dénonçant Biden, qui, lui, prudemment, faisait des déclarations à la nation américaine depuis son sous-sol, le sous-sol de son domicile. Donc le cas de figure est très différent. Trump a incité des gens à prendre des risques. Macron, à sa manière, bouscule les Français pour augmenter ou essayer de faire augmenter, avec un succès qui sera probablement très relatif, le nombre de vaccinés.
Mais là aussi, Donald Trump, si on veut lui rendre hommage sur ce point, parce que peut-être on peut tenter de le faire, Donald Trump a déversé des milliards de dollars sur les laboratoires pharmaceutiques, et c'est finalement grâce à ces milliards de dollars qu'ont été trouvés des vaccins. Je parle bien sûr pour ceux qui considèrent que les vaccins sont des bénédictions.
Oui, avouez que pour quelqu'un qui est un grand sceptique sur le vaccin et qui était le sceptique en chef sur le Covid, la contradiction est plutôt fleurie. Mais il n'en demeure pas moins que les autorités américaines sous Trump ont beaucoup tardé à réagir à la crise sanitaire, entre autres en raison de la structure de la politique américaine. C'est une structure fédérale qui donne beaucoup d'autonomie aux États et où le président doit avoir un rôle de coordinateur qui dépasse les attributs habituels de sa fonction. Et il ne savait pas le faire. C'était à ce point visible qu'il a cessé de faire ces conférences de presse quotidiennes, parce qu'il n'avait pas grand-chose à dire, il n'étudiait pas le dossier, il n'était pas tout à fait au courant de l'évolution de la crise sanitaire, et là-dessus, il porte une certaine responsabilité dans l'état d'aggravation qui a marqué le début de la crise.
Je veux vous faire entendre, Rana Levy, le message que Joe Biden a voulu faire passer hier aux non-vaccinés.
Il n'y a pas d'excuse, pour quiconque n'est pas vacciné. Cela continue d'être une pandémie des non-vaccinés. Alors nous devons encore progresser. Et pour les patients qui n'ont pas encore vacciné leurs enfants, s'il vous plaît, vaccinez-les. Tenez compte de leur intérêt, c'est la meilleure manière de les protéger.
Forme différente d'Emmanuel Macron, mais fond plutôt identique.
Est différente. La parole, les mots exprimés en pleine crise sanitaire, fût-ce au milieu d'une campagne électorale, compte. Et je crois que là-dessus, Biden a trouvé le ton et les mots justes pour essayer de convaincre un nombre de sceptiques autrement considérable qu'en France de se faire vacciner ou de, en tout cas, de respecter les gestes barrières pour essayer d'endiguer un développement fulgurant de la contamination un peu partout dans le monde.
Mais là aussi, c'est quelque chose de tout à fait troublant, parce que on évoque cette prise du Capitole il y a un an, et vous me disiez il y a quelques instants, Rana Levy, c'est finalement au nom de la démocratie que ces insurgés ont envahi le Capitole, parce qu'ils pensaient, et on peut imaginer que la plupart étaient sincères, ils pensaient que cette élection leur avait été dérobée. Aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes hostiles au vaccin qui le sont au nom de la science, pas contre la science.
D'abord, il faut évoquer à ce propos l'individualisme américain auquel Tocqueville consacre un chapitre magnifique où il explique l'Américain, je dirais congénitalement, pense qu'il peut tout faire par lui-même. L'idée d'un savoir qui lui soit extérieur lui est sinon étranger et même parfois insupportable. Et donc, il y a une sorte de scepticisme vis-à-vis de la science que des éléments autres ont approfondi ces dernières années. D'abord, la science, c'est fait par des essais et par des échecs. Il y a des désaccords entre scientifiques. Et du coup, ça alimente un scepticisme, surtout dans un pays où l'individualisme et l'idée qu'on sait soi-même ce qui est bon pour soi et qu'on laisse pas aisément qui que ce soit intervenir dans sa vie privée est un sentiment très fort et très ancien. Et donc, ça c'est un élément. L'autre élément, c'est que les tâtonnements explicables de la science ont provoqué aux États-Unis un scepticisme vis-à-vis de la science et même une hostilité vers la science. Et l'explosion des réseaux numériques L'idée que la libération d'une parole autonome, l'autonomisation généralisée, universelle de la parole, crée une situation où chacun pense qu'il sait tout, qu'il peut se prononcer sur tout, qu'il n'a pas besoin de conseillers, il a besoin d'alliés. On voit se créer aux États-Unis comme ailleurs, et c'est un phénomène qui nous atteint aussi, pas dans les mêmes proportions, une sorte de communauté idéologique et des communautés d'affinité politique entre gens qui communiquent entre eux et qui ne communiquent plus avec l'autre. Il y a la polarisation politique, culturelle et identitaire américaine est alimentée à une vitesse folle par le développement des réseaux numériques. Les Américains ne se parlent plus.
Un an depuis cette prise du Capitole que nous évoquons ensemble, Rana Levy, avec un certain nombre de craintes, puisque je lisais par exemple le Globe and Mail, qui est un quotidien canadien, et un universitaire y développait l'hypothèse selon laquelle la démocratie américaine était selon lui condamnée, c'est une vision extrêmement pessimiste des choses, et que cette condamnation ne pouvait être calé vers une prise de pouvoir de la droite extrême aux États-Unis et qu'il fallait que le Canada s'y prépare. Selon vous, y a-t-il dans cette hypothèse quelque chose de plausible ? Est-ce que le fait que Trump ou un autre aujourd'hui puisse récupérer ces personnes qui ont marché sur le Capitole il y a un an ?
Il y a déjà des rapports depuis quelques mois aux États-Unis qui évoquent le risque d'une véritable guerre civile. Je crois que la polarisation américaine a atteint un niveau tel qu'on n'a pas besoin d'un coup d'État ou de prise de pouvoir illégale pour que l'Amérique ne soit pas en train de vivre, en accéléré, une forme de guerre civile. Quand vous avez 70% des Américains qui ne croient plus, qui croient que l'élection a été volée, et quand la thèse du complot prend des proportions dont le raisonnement politique s'insère dans les raisonnements politiques, y compris dans les médias et les réseaux sociaux, à des proportions jamais vues auparavant, c'est que la démocratie américaine est malade. En tout cas, elle est fragilisée et ses structures n'arrivent plus à encadrer les excès qui sont propres à toute démocratie.
Mais alors, c'est quand même étrange, parce que la thèse du complot, le poids du complot, quand on lit par exemple l'historien François Furet, celui-ci expliquait que le complot était presque consubstantiel à la démocratie, parce que la démocratie est un phénomène complexe où le pouvoir est beaucoup plus compliqué à identifier que la monarchie, bien sûr. Alors, pour quelles raisons ce complot et ce poids devient-il particulièrement important aux États-Unis aujourd'hui ?
La vie publique est devenue quelque chose de tellement compliqué. Le fonctionnement des sociétés, que le besoin d'une explication simple et rationnelle, surtout pour les gens qui ont été dépossédés, comme aux États-Unis, par la mondialisation, devient un besoin presque vital. Quand quelqu'un vous fournit une explication toute faite de votre situation ou désigne, ça c'est le propre des thèses du complot, les ennemis qui vous cherchent, qui sont les responsables de votre malheur, à ce moment-là, on entre dans une phase de la démocratie qui fragilise ses structures et ses procédures. Maintenant, il y a le complot tel qu'il a été décrit par un historien que vous aimez, Richard Hofstadter. Hofstadter l'attribuait toujours à...
Il faut présenter qui était Hofstadter.
C'était un grand historien américain qui a fait un livre séminal sur les partis et qui a fait un essai très court sur le style paranoïaque de la vie publique américaine qu'il fait remonter jusqu'au fondateur et même au-delà. Et il l'attribue toujours à des intentions. Il dit le style paranoïaque est nourri de l'idée qu'on attribue des phénomènes qu'on observe ou des crises qu'on est en train de vivre à des personnes, à des intentions. Et par exemple, il part de la Révolution américaine où les révolutions, les fondateurs ont attribué, les raisons de leur révolte aux mauvaises intentions et du roi d'Angleterre et surtout du Parlement. Mais le complot a beaucoup évolué depuis. on cherche toujours une explication, mais il n'est plus un système entier où il y a des responsables, des plans, et des alliances, des stratégies. Il a été complètement démonétisé. On utilise le complot sans lui attacher, comme par le passé, des théories. C'est devenu un complot jetable. Et pour Trump, et l'usage du complot par Trump est un usage, lui aussi, est très très habile, mais qui se passe de théories. C'est-à-dire, il trouve des responsables au fur et à mesure de ses discours, de l'évolution politique, mais il le fait avec beaucoup d'habileté parce que ses cibles sont toujours les mêmes. Les progressistes, les élites, les pays étrangers, les étrangers. Il galvanise un sentiment de nationalisme exacerbé et ça marche. Ça marche surtout en temps de crise dans une société très, très, très divisée.
Mais qu'est-ce que ça veut dire complot jetable, Rana Levy? Parce que, alors, vous êtes historien, vous avez travaillé sur un certain nombre d'objets, notamment les loges maçonniques et leur rôle pendant la Révolution. Alors, la maçonnerie est l'un des objets de ces théories du complot. Il y en a de nouveaux, beaucoup de nouveaux, notamment aux États-Unis.
Il cible avec les thèses. D'abord, il y croit. C'est-à-dire, quand il a été élu en 2016, il n'a pas eu une majorité de vote populaire. Il l'attribuait à une conspiration des Clinton. Il a évoqué pendant toute sa présidence des scénarios complotistes, mais quand je dis sans théorie, par exemple, à un moment, il dit à ses conseillers, écoutez, moi je pense que Biden s'est endormi, c'est un paravent. Les démocrates l'utilisent pour le jeter à l'approche des élections et pour mettre contre moi celui qui était gouverneur de New York, Cuomo. Et il dit, il va prendre comme vice-présidente, candidate à la vice-présidente, la femme d'Obama. Ses conseillers étaient sidérés par cette idée. Mais il a une sorte de mentalité ou de tournure d'esprit complotiste qui explique d'ailleurs certaines de ses affirmations. Et pour les élections, il l'a porté à des hauteurs inégalées.
Ça n'est pas forcément quelque chose de complètement inédit dans la tête d'un homme politique. Richard Nixon était tout aussi complotiste, ce qui ne l'a pas empêché d'avoir une présidence au début plus normale que celle de Donald Trump. Et puis on voit assez souvent des responsables formuler des théories du complot en on ou en off.
Mais Trump ne théorise pas. Il attache l'idée du complot aux circonstances telles qu'elles viennent. Par exemple, il dit qu'il y a un complot des États d'Amérique du Sud pour nous faire inonder d'immigrés et on privilégie parmi les immigrés les violeurs, les malades, etc. Et donc, il l'attache aux circonstances. Il y a toujours un complot disponible, une idée du complot, mais pas une théorie du complot, disponible pour rationaliser des situations politiques et les circonstances.
L'une des leçons de la présidence de Donald Trump, Rana Levy, et aussi de ce qui s'est déroulé au Capitole il y a un an, c'est que les institutions américaines ont tenu, c'est-à-dire qu'à aucun moment, l'armée, la police n'ont pu être suspectées de se livrer à des actes anticonstitutionnels. Est-ce que ça n'est pas quand même un élément extrêmement rassurant ?
C'est un élément rassurant dans une conjoncture où l'idée de complot et l'idée le poison du soupçon sont en train d'infester les institutions américaines. Il y a une incapacité aujourd'hui de dialogue entre démocrates et républicains comme on l'a jamais vu. Il n'y a plus de dialogue. Il y a une sorte d'idée que l'adversaire cherche à vous nuire. Il y a une idée d'état de guerre. C'est-à-dire, il y a une sorte d'état de guerre politique à l'intérieur d'institutions qui fonctionnent encore. Mais à partir du moment où, par exemple, pour les procédures électorales, vous remplacez des fonctionnaires impartiaux par des élus qui, eux, appartiennent à des majorités changeantes, à ce moment-là, vous fragilisez les institutions, même si elles tiennent toujours ou donne l'impression de tenir toujours comme avant.
Mais est-ce que justement, là aussi, ça n'est pas quelque chose qui est assez caractéristique de la politique américaine et peut-être de la société américaine ? Parce que j'ai sous les yeux un passage de Tocqueville que vous citez dans votre ouvrage « Le chaos de la démocratie américaine » où Tocqueville explique que les sociétés politiques, je le cite, sont non ce que les font leurs lois, mais ce que les prépare d'avance à être les sentiments, les croyances, les idées, les habitudes de cœur. Autrement dit, Tocqueville relativise l'importance des institutions et des lois au sein de la politique pour insister sur les mœurs et finalement ce que l'on pourrait appeler la société, les sociétés.
Je crois que Tocqueville répond parfaitement à votre question. À partir du moment où les mœurs politiques ne respectent pas les institutions ou mettent les institutions en suspicion, où le soupçon gère, je dirais, les relations politiques et au sein même du Congrès et au-delà, où une société où chaque parti est divisé à l'intérieur de lui-même entre un courant libéral et un courant de plus en plus imposant illibéral, à ce moment-là, les mœurs politiques finissent par avoir un effet corrosif sur les institutions. Prenez par exemple la culture woke. Elle a commencé dans les universités. On pensait qu'elle y serait confinée éternellement dans des thèses un peu loufoques ou la théorie sociale de la race. Elles ont largement débordé le cadre universitaire. On n'a jamais cru qu'elles arriveraient à Washington. Elles sont maintenant, elles fleurissent au sein du Congrès, dans les marges de gauche du Parti démocrate. Elles ont une influence qu'on sous-estime sur la politique Biden. Et donc, elles ont, vous voyez là comment une évolution des mœurs a fini par avoir une influence sur l'esprit des institutions.
Pourtant, on a l'impression que Joe Biden est quelqu'un de beaucoup plus modéré que certains discours qui se réclament ou que l'on caractérise comme relevant du wokisme.
C'est tout à fait vrai, mais je crois que la présidence de Biden aujourd'hui paraît comme un échec. Pour des raisons, il n'a pas eu beaucoup de chance. Il y avait le Covid, il y avait un départ désastreux de l'Afghanistan. On devait peut-être sortir, c'est discutable. Mais la manière dont les Américains sont sortis de l'Afghanistan était terrible. Il a ouvert les vannes de l'immigration clandestine. C'était une erreur, parce que c'est un point, justement, de litige terrible. Non seulement avec les Républicains, mais avec beaucoup d'électeurs indépendants. Et la criminalité est en train d'exploser, mais le pire, c'est que Biden, d'une certaine manière, avait le choix entre unir la nation, c'était son intention. Il dit, moi je suis un président pour un mandat, je voudrais apaiser les esprits, unir la nation, ou unir le Parti démocrate. Et unir le Parti démocrate, c'est s'aligner sur les thèses progressistes. Et il a choisi, au regret de beaucoup de démocrates modérés, et d'unir le Parti démocrate plutôt que d'unir la nation. Et on en voit les résultats. Lui-même, je ne suis même pas sûr qu'il comprend ce que c'est que la théorie sociale de la race. Mais expliquer que l'Amérique souffre d'un racisme systémique, que les progressistes interprètent comme un racisme qui n'a jamais été déraciné, qui, d'un racisme explicite
racisme
et avoué
systémique, je ne sais pas, on peut en discuter, mais en tout cas, qu'il y ait une question raciale lourde, par exemple, dans l'institution policière américaine, cela est quelque chose impossible à nier.
Il y a des tensions raciales. Écoutez, le racisme est la tragédie américaine par excellence. D'ici, on ne peut même pas comprendre l'ampleur de cette tragédie. Mais vous regardez par exemple le taux de mariage mixte aux États-Unis, il a triplé en 30 ans. Il partait de très bas, absolument. Le racisme persiste, mais il n'a pas du tout les dimensions institutionnelles, structurelles et politiques qu'il avait, comme vous l'avez cité tout à l'heure, quand on a essayé d'empêcher des électeurs démocrates légalement de voter par toutes sortes de subterfuges. Mais dire aujourd'hui qu'il y a un racisme systémique, c'est de dire que le racisme continue déguisé et que d'une certaine manière, ce que a dit Condoleezza Rice récemment, l'ancienne secrétaire d'État de Bush, elle a dit à quoi ça sert d'expliquer à un enfant blanc qu'il est raciste structurellement ou qu'il fait partie d'un racisme systémique et à quoi ça sert-il de dire à un enfant noir qu'il est une victime éternelle? Or, c'est ça la thèse que Biden a défendue au début de son mandat, sans, je suis même pas sûr qu'il ait compris toutes, je dirais, les ramifications de cette déclaration. Et il s'est aliéné les électeurs modérés des deux côtés, et au lieu donc d'unir la nation, il a essayé d'unir son parti, et d'ailleurs il n'a même pas réussi, parce que récemment, l'extrême gauche ou la gauche du Parti démocrate déjà complote, enfin, se réunit, se concerte pour lui trouver un remplaçant plus adéquat.
Rana Levy, Le chaos de la démocratie américaine, c'est un ouvrage particulièrement clair, avec une profondeur de champ sur cette journée, la journée du 6 janvier 2021, la prise du Capitole, ce que révèle cette émeute, et c'est publié aux éditions Gallimard.